agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie el pueblo obrero va a la batalla, hay que derrocar la reacción. A las barricadas, a las barricadas, con el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, con el triunfo de la confederación.
Salut à toutes et tous, c'est l'émission lundi matin sur Radio Libertaire, c'est la radio libre de la Fédération anarchiste. On est ensemble pour deux heures, Natacha, Nicolas, Laurent, Sylvie est absente ce matin, elle n'est pas très bien, voilà, ça peut arriver. Donc deux heures d'émission avec le déroulé habituel, dans quelques instants présentation du thème du jour, ensuite un agenda et la dernière partie de l'émission, donc développement du thème choisi et abordé ce jour. On écoute Jean Guidoni, on se retrouve tout de suite après.
Les caveaux de famille ont de pesants mystères qu'il vaut bien mieux parfois laisser dormir en paix. Il faut laisser le droit aux aïeux de se taire, accepter leurs baisers et leur silence épais. Car s'il vous prend l'envie de chercher vos racines dans les tiroirs secrets des buffets Henri III, vous y découvrirez des photos qui fascinent, mais aussi le parfum de l'an 43. Vous risquez de trouver au creux des ménagères la Francisque Martial sous les couverts d'argent, et dans le cher album la figure étrangère d'un noble et beau vieillard au sourire engageant. Orphelin de moitié, quand mon papa de Dip trimballait le complexe plus qu'il n'est de raison. Un psychiatre apparu du prénom de Philippe, et mamie s'écria, un homme à la maison. Alors mon cher papa fit couper ses anglaises, au pied du maréchal il s'en vint déposer, petit short kaki et les genoux à l'aise, jurant de féconder notre sexe opposé. Se gavant de Doriot, plus que de vitamines, il attendait le jour en relisant Peggy, où lui aussi pourrait liquider la vermine et seconder Tonton à traquer les maquis. Fernande avait encore sa chevelure, ses coques étagées dont mon oncle était fat, ce bon tonton Marcel qu'il avait fière allure, sous le béret viril marqué du signe alpha. Il veillait tard le soir et peaufinait les listes des amis et voisins qui dessinaient des V, des plutôt francs-maçons et des bolchogolistes, des anglo-communistes à jamais enjuivés. surprise au petit jour, songeant à la droiture du héros de Verdun dont on s'assoupissait. Cependant que Tata, à la commandanture, postait ce qu'il savait de ses mauvais Français. Grand-mère finissait d'espionner les voisines. Derrière le frais voilage des rideaux de Vichy, elle semblait inventer la nouvelle cuisine. Au bout de vos spongieux farcissants et hachis, j'aurais tant aimé que papy goûte ma recette, disait-elle en touillant l'expire tabaga. Mais grand-père est mort depuis 1917, quelque part sur le front, et d'autres petits gars comme lui ne diront rien à celui qui contemple leur nom bien aligné dont l'or déjà s'éteint. Car mon grand-père est mort, fusillé pour l'exemple, sur l'ordre du bon berger, sur l'ordre de Pétain. Tous les enfants de France ont un second papy, couronné d'espérance et de chêne au képi. Et toi là, la houlette et le stage enrichi, tout le français répète, tu es notre berger.
Voilà, Jean-Guy Denis sur les ondes de Radio Libertaire. Il est 11h, bientôt 10 minutes. Le thème du jour sera consacré à souvent quelque chose qu'on nous retourne quand on nous dit « Vous, les anarchistes, vous êtes trop radicaux, c'est trop radical. » Voilà, donc on va revenir un petit peu sur ce thème de la radicalité. Voilà, ça sera tout à l'heure 11h. 30 environ, bien sûr. On reste avec Jean-Guy Denis, le temps de nous préparer pour l'agenda du lundi matin, se rencontrer, se voir, discuter, réfléchir, agir ensemble. Et je vous l'ai dit, donc, on reste avec Jean-Guy Denis encore quelques instants pour une nouvelle chanson et tout de suite après, donc, l'agenda.
Je n'étais pas sorti depuis le grand labour. J'attendais que les cris s'espacent et cessent enfin. Entre mourir de peur ou bien mourir de faim, j'ai pris tout mon courage et rampé vers le jour. Tu sais, j'ai survécu dans un endroit bizarre, au fond d'une ambulance à moitié calcinée. Vivant parmi les morts et comme halluciné, au coin de ce que fut notre gare Saint-Lazare, je respire un grand coup et voilà que revient le soleil espéré et que cesse la bruine. Je trouve ce papier qui volait dans les ruines et j'écris cette lettre pour te dire tout va bien. Tout va bien ici, tout va bien. On sent à des riens que la vie revient. Tout va bien, mais oui, tout va bien. Et le quotidien le dit, le maintient. Tout va bien, amour pour ton chien. Pour les Parisiens, pour moi et les tiens. Tout va bien, crois-le, tout va bien. Bonjour, tout va bien. Je t'aime, tout va bien. Ton ombre dans la mienne, les vainqueurs distribuaient la soupe à l'opéra. J'ai tapé dans le bol, tendu par un para, là où nous goûtions les tempêtes wagnériennes. On avait déblayé boulevard des Capucines, vers l'Olympia en ruine, j'ai vu quelques putains. Je crois, lorsque le vieil instinct, narguant les convenances, remonte des racines. J'ai fait un grand détour pour ne pas rue royale, contempler le charnier où grouillent encore les rats. C'est là où fut, dit-on, abattu Jean Ferrat, et le vent apportait des musiques martiales. cœur défilait, comme hanté par Zitrone. Moi, je ne disais rien, les yeux sur la télé. Ta mère se lamentait, ses opalines fêlées, malgré l'ordre et la paix, la faisait rire jaune. Allez, mon petit Jean, votre quartier est triste et rempli de cadavres en décomposition. Restez donc à dîner, il y a une émission avec Mireille Mathieu. Je l'aime bien comme artiste, mais puisque vous partez, prenez garde aux patrouilles. Ils ont parqué les rouges au palais des congrès, dans le palais des glaces, les pédestins regrets. Et au palais des sports, vos chers juifs ont la trouille. Pour revenir chez nous, comment passer la Seine? Barbelé sur les ponts, barbelé sur les quais. Près d'un cratère j'ai cru revoir le Mastroquet, où nous nous retrouvions en des heures moins malsaines. Ce bistrot déglingué, c'était tout notre empire. Le futur y avait un visage précis. Naïfs que nous étions et aveugles aussi, qui nous imaginions pouvoir prévoir le pire. Adieu notre jeunesse, voilà le temps qui vient, des paillons des œillères et de la pestilence. Le temps des ovations et celui des silences, que l'on ne rompt que pour se redire tout va bien. Tout va bien ici, tout va bien. On s'en a des rien, que la vie revient. Tout va bien, mais oui, tout va bien. Et le quotidien, le dit, le maintien. Tout va bien, amour pour ton chien, pour les Parisiens, pour moi et les tiens. Tout va bien, crois-le, tout va bien. Je t'aime, tout va bien. Adieu, tout va bien. Vivace mon amour, on essaiera de l'être. Tu le seras aussi, comme cette vie qui va, comme les ce brin d'herbe cueillis dans les gravats, que je glisse pour toi dans le pli de ma lèvre.
Voilà, donc l'agenda du lundi matin, c'est Natacha et Laurent qui vont vous présenter donc quelques rendez-vous. Pour commencer, un petit rappel, toujours pour vous signaler, vous rappeler que à la librairie Publico ou par correspondance à Radio Libertaire 145 rue Amelot, vous pouvez vous procurer la carte d'auditeur 20 €, qui permet tout simplement de contribuer au financement de la station. Les premiers rendez-vous proposés par Natacha.
Alors au premier rendez-vous, il y aura une journée proposée à la librairie Michel Firk. C'est une soirée de soutien qui est faite avec la parole errante. De discussions, de concerts qui tournent autour du thème de l'antipsychiatrie, qui permettra de discuter sur la question de la psychiatrie, de la psychanalyse, des violences faites dans ces milieux et de la question des soins, des témoignages de gens qui vivent ça au quotidien. Au programme, ça ouvrira à 14h, où il y aura une vente de livres et une friperie à prix libre. Entre 17h30 et 19h, il se passera une performance 51 organisée par le collectif Mouvement. Je sais pas vraiment ce que sera la performance, mais elle aura pour thème Justement, enfin, je pense une sorte de réflexion organisée par des femmes détenues, par des artistes, par des psychiatres par des psychiatres et des techniques de soins dans le milieu de la psychiatrie. À 19h30, une discussion, un apéro. À 20h, un repas organisé en prix libre. Et à 21h, jusqu'à minuit, il y aura un concert où succéderont trois présentations. La première, élément du décor, un duo de contrebasse. La deuxième, Tarm, entre l'électroacoustique et le no-vave. Et puis un set de DJ Meuleuse. En fin de soirée.
Pardon, j'en profite juste pour rappeler, suite à l'annonce que tu viens de faire, Natacha, qu'on a sur Radio Libertaire le mercredi à 9h30 en matinée avec notre ami Denis une excellente émission sur le thème de l'antipsychiatrie.
Oui, ouais. Alors, du coup. Oui, du coup, je précise juste pour l'adresse. Donc, c'est organisé par la Parole Éante et la librairie Michel Firk. Ça se déroulera à la librairie Michel Firk à 14h, de 14h à minuit. Et ce sera. Ce sera quel jour ? Ce sera le samedi 11 février 2023. Voilà. On a pour autre annonce une discussion à la bibliothèque Larue. Bibliothèque gérée par quelques groupes de la Fédération anarchiste. Qui aura pour thème l'éducation des enfants en dehors de la sphère scolaire, la place qu'ils ont, la place qu'ils ont en dehors de l'école, et je pense que ou la place de l'éducation en dehors de l'école à partir de la maternelle. Il y aura une AG autonome le mercredi 8 février à 19h.
Excuse-moi, Natacha, t'as donné l'adresse de la rue ?
Ah oui, non, pardon. C'est le 10 rue Robert Planquette à Paris, dans le 18e, donc à Montmartre, métro Blanche. Et ce sera le vendredi 10 février à 19h30. Voilà, 10 rue Robert Planquette dans le 18e. Donc un appel à une AG autonome le mercredi 8 février. Jeudi 2 février, une petite vingtaine de personnes s'est retrouvée place du marché de Montreuil, site de l'AG autonome. Elles y ont diffusé différents tracts sur le thème de la sécurité et du travail avant d'aller à la CPAM, l'assurance maladie. Elle a été envahie, on a fortement exprimé notre mécontentement, on a tracté et discuté avec des gens. La même chose a été faite au Pôle emploi, on a dispersé beaucoup de tracts en les deux endroits dans le quartier. Le tout sur une durée d'une petite heure, soyons plus nombreux la prochaine fois pour imaginer d'autres choses. Voilà tout pour les affiches.
Alors donc, quelques rendez-vous de mon côté à vous proposer. Alors ça va se passer à la Kunda, à Vitry-sur-Seine, un karaoké auto-tuné, donc karaoké, restauration, bar, etc. Donc auto-tuné parce que en soutien à l'Assemblée contre les centres de rétention administrative d'Île-de-France. Donc ça va se passer le samedi 11 février de 18h à minuit à la Kunda, je vous l'ai dit, c'est au 16 rue Jules Laguesse. Et on est donc à Vitry-sur-Seine. Un petit tour du côté de la librairie Publico maintenant, avec le jeudi 16 février, un rendez-vous à 19h avec quelqu'un qu'on a déjà reçu plusieurs fois à la librairie, c'est Brigitte Bramy, pour un livre qu'elle vient de publier, Ouvre-moi, poème à crier. Donc un recueil qui regroupe des poésies écrites entre 1980 et 1990. Voilà, on connaît également Brigitte Bramy un peu plus pour d'autres livres qu'elle a précédemment écrits, où il est question de la prison, notamment de ses incarcérations à elle-même. Donc elle sera là, parmi nous pour ce livre « Ouvre-moi, poème à crier ». Et donc ça sera, je vous l'ai dit, le jeudi 16 février à 19h. On va remonter un petit peu le temps, samedi 11 février à 16h, ça sera la projection de la seconde partie de « Génération War ». Cette série qui est donc consacré à la Seconde Guerre mondiale, pardon. Donc deuxième épisode qui donc vous sera proposé, qui se déroule en juillet 43 après la défaite de Stalingrad. C'est le groupe Salvador Seguí qui organise cette soirée et qui évidemment après la projection vous proposera d'échanger et de débattre. L'entrée est libre, bien évidemment. Vous le savez, notre ami camarade Serge Livrosé est décédé récemment. Une soirée hommage lui sera consacrée à la librairie Publico. Ça sera à 20h. Ça sera en compagnie de Jacques Lesage de La Haye. Sera projeté également le film documentaire de Nicolas Drolk qui s'intitule La mort se mérite. Donc documentaire consacré à Serge Livrosé. Donc ça va se passer le 15 février, là encore l'entrée est libre, bien sûr, à la librairie Publico, pour rendre hommage à cet ami, ce camarade, Serge Livrosé, qui a donc un long parcours derrière lui, de cofondateur du comité d'action des prisonniers, de cofondateur aussi de la première mouture du journal Libération. Voilà, bref, toute une vie de combat. Donc, 15 février, 20h, à la librairie Publico. Également, autre rendez-vous. Et ça sera le 12 février, ça va se passer au CICP, le Centre International des Cultures Populaires. Une soirée de solidarité avec le squat collectif Alzol, qui occupe un bâtiment vide depuis plusieurs années, rue Candale, c'est à Pantin. Et une soirée de solidarité avec ce lieu, avec ce squat collectif Alzol est organisée donc le dimanche 12 février de 17h à 22h au CICP, c'est 21 rue Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris. C'est au métro Avron ou encore Nation. Et il y aura en concert Julie Collère et Cartouche, qu'on passe régulièrement dans cette émission. Voilà, donc ces deux groupes, Cartouche, Julie Collère en concert. C'est une soirée de solidarité. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, mais ça veut dire que c'est à prix libre. Voilà. Autre rendez-vous encore. Là, c'est un rappel. Mais là, je pense que tout le monde le sait, il y a quand même deux rendez-vous qui sont donnés dans la suite de la mobilisation contre la réforme des retraites. Il y a donc un rendez-vous qui est donné. Le 11 février, ça sera donc un rassemblement. Hein, ça sera à partir de 13h. Ça sera donc place de la République. Et puis demain, bien sûr, rendez-vous 14h, Opéra, pour une nouvelle manifestation donc contre la réforme des retraites. Donc manifestation qui partira à 14h d'Opéra, qui passera par République pour aller jusqu'à la place de la Bastille. Voilà, du côté de la presse également, je voulais vous présenter le numéro 217 de CQFD qui est sorti pour ce mois de février. Défliquons nos vies à la une. Donc de CQFD, et un dossier important, Maison Poulaga, tout doit disparaître. Je vous propose également, si vous passez à Publico, de le retirer, il est à prix libre, c'est Viré à l'anarchie, consacré donc à l'antimilitarisme, ce numéro. C'est numéro 5, donc vous le trouverez si vous passez à la librairie Publico, bien évidemment. Et Le Monde Libertaire, qui sort son numéro 1847 pour ce mois de février. Libertaire de tous les pays, écrivez-nous. Donc un numéro, on va dire, qui permet à un certain nombre de collectifs, groupes, individus, d'un peu tous les pays, d'Espagne, d'Italie, de s'exprimer, d'écrire. Donc on trouve des articles sur Cuba, on trouve aussi, notamment, entre autres aussi, par exemple, un article qui vient de Slovénie, une lettre du Soudan, écrit par des anarchistes soudanais, etc., etc. Donc des articles, c'est bilingue, ils sont publiés en langue originale et avec leur traduction en français. Voilà, j'ai commencé à lire ce numéro et notamment un article intéressant de Thomas Ibanez, Pensée et pratique anarcho-syndicaliste, entre autres. Mais voilà, il y a d'autres choses, bien évidemment, à découvrir dans ce numéro 1847, qui est en vente, bien sûr, à la librairie Publico. Voilà, c'en est fini pour ce petit agenda. Il est quasiment 11h30. On va écouter un petit peu de musique avec donc le groupe Nada et l'Inconsolable, donc réunis pour l'occasion, pour cet album et ce titre qui s'appelle donc Ni Dieu ni Maître.
J'ai jamais pu supporter les ordres et je fus en marge des écoles. Pas su accepter les codes, j'enrage d'emporter les bords. J'en claque des portes et désole les profs voulant mal faire mordre la poussière. Et je crache dans la soupière, j'aime pas ces méthodes. J'ai jamais baissé les yeux, ni regardé vers le sol. On me fera pas faire ce que j'ai pas envie de faire, ni Dieu, ni l'État, ni personne. J'suivrai pas, j'viens casser les gosses et j'lasser les boss. Vous m'épargnerez les strophes, moraliste à me rempart, j'ai féroce, t'es gosses. Certes, pas tout clean, mais pas insensible à tout crime. L'état de tangent à vous mine, qui s'insurge quand on de la boubrime. Comme Emma, Coleman et Malat et Sabouchine. J'suis insoumis, pas comme Mélenchon, mais comme Bakounine. Allergique à tout style de chef de Macron à Poutine. J'attends le jour où le prolétariat leur part à la routine. J'ai pas pour guide les leaders déchus de Cuba ou de Chine. Pas de bullshit, fils d'anarchie pour ma classe qui part tout rime.
Ni Dieu, 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 ni maître, maître.
Tous leurs petits chefs ainsi Dieu peuvent aller se faire mettre.
Ni Dieu, 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 ni maître,
maître. Jamais pu me soumettre au pouvoir, au dieu des contre-maîtres.
Ni Dieu, 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 ni maître, maître.
Comme s'il peut compromettre, aurait pu me compromettre.
Ni Dieu, 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 ni maître.
Au taf, faut pas, j'suis pas assez studieux pour m'y mettre.
Du mal avec l'arbitraire de ces capitaines qui me filent la migraine, et y'aura pas de happy end. Par dizaines de milliers l'école, créer des clones, des cons et des connes, qu'absorbe et des psaumes, stone. Écouter et ne jamais crier, apprendre à faire des billets, à les trier, à les plier. Moi je priais de mes défauts, fier de mes zéros. Puis je me suis mis à Péra, je suis mon propre héros. Néo dans la matrice, mes frérots et mes gars kiffent. Mais y'a des mots dans le carnet, c'est un fléau. Très négatif, le petit Léo est anarchiste, sans même le savoir. Sous le préau, c'est la manif, enfin c'est ce qu'il aimerait voir. Pire et tel défaut, rien, rien, c'est ce qu'on était à leurs yeux des grands tards. Et moi j'allais me cacher dans mes rempoirts. Mais j'ai retourné le stigmate, argument péremptoire. Nada, c'est mon blague, mon étendard.
Ni Dieu, 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 ni maître,
maître.
tous leurs fichettes, ainsi que peuvent aller se faire mettre.
Ni Dieu, 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 ni maître, maître.
Jamais pu me soumettre au pouvoir, au Dieu des contre-maîtres.
Ni Dieu, 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 ni maître, maître.
Comme s'il peut compromettre, aurait pu me compromettre.
Ni Dieu, 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 ni maître.
Au taf, faut pas, j'suis pas assez studieux pour m'y mettre. J'ai pris de l'âge, j'ai pris large, des petites salles de place. Et j'ai pris le virage, des petits tafs, des brimades, des flicages. C'est le visage, l'autorité que l'adulte a en héritage. C'est vite barge, régie par des mirages, des mille cages. C'est vite marche, ou crève, j'pars, j'fais grève et j'les petits caches. Rétique sans emprisonner mes rêves derrière des grillages. Qu'ils rousse pète, j'suis tout prêt à faire moule, courbette au soumettre. Ou grand patron, j'pourrais jamais me soumettre à mes ennemis de classe.
Allergie. Au petit chef trop zélé, heureusement que je suis passé par le lycée autogéré. Poto, je l'ai fait en âge et j'ai appris à parler. Les efforts et le réconfort, ici tout est partagé. Pas de notes sur les cahiers, mais sur les murs plein de graphes. Après ça, comment mettre une cravate, comment m'aliéner au taf. Préparé au nouveau monde, à nous de faire émerger. Ça demande du courage et de l'énergie.
De l'énergie. Ni Dieu, 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 ni maître,
maître. Tous leurs petits chefs ainsi que peuvent aller se faire mettre.
Ni Dieu, 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 ni maître,
maître. Jamais pu me soumettre au pouvoir, au Dieu des contre-maîtres.
Ni Dieu, 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 ni maître,
maître. Comme s'il peut compromettre, aurait pu me compromettre.
Ni Dieu, 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 ni maître.
Au taf, faut pas, j'suis pas assez studieux pour m'y mettre. Pour m'y mettre. Voilà, donc on va rentrer un petit peu dans le sujet. Alors ce sujet nous a été inspiré parce que hier on a projeté à la librairie Publico un dessin animé de 1954 qui s'intitule La ferme des animaux, donc reprise en dessin animé du célèbre roman donc de George Orwell, dont la thématique principale est le pouvoir, bien sûr, l'autorité. Et donc ça a été une après-midi d'ailleurs assez riche hein, en échange, assez riche en discussion. Avec une belle assemblée qui était présente et des gens très intéressants avec qui on a pu discuter, échanger, voilà, c'était vraiment bien de ce point de vue-là et ça nous a inspiré aussi pour cette émission ce matin sur un aspect particulier. C'est ce que j'énonçais tout à l'heure en présentation de l'émission, du thème du jour, c'est celui de la radicalité. Souvent, vous êtes trop radical et quelque chose qui nous est asséné pour décrédibiliser, bien sûr, pour dire que c'est impossible, pour renvoyer aussi à quelque chose qui est utopique, qui n'est pas sérieux, etc. Ou tout simplement que c'est trop. C'est-à-dire pour nous ramener à l'idée que ce qui doit être proposé ne peut être que quelque chose de raisonnable. Or, de mon point de vue, à moi, je pense que ce que proposent les anarchistes est un projet extrêmement raisonnable face à ce projet complètement démentiel et fou de vouloir continuer, penser à aménager ce système, de penser qu'un jour, on aura un capitalisme qui redistribuera égalitairement les richesses, que l'État, un jour, deviendra protecteur des peuples, etc., etc., pendant que toute cette logique folle, État-capitalisme, nous mène droit contre le mur. Donc, en réalité, moi, je pense plutôt que ceux qu'on taxe de radicaux, d'irresponsables, d'utopistes, etc., sont des gens extrêmement raisonnables, parce que je pense qu'il est raisonnable de penser qu'il faut en finir avec le capitalisme et l'État. Un petit peu, je le cite souvent, un célèbre astrophysicien, je crois, qui dit toujours... qui disait en tout cas qu'on est dans un train qui se dirige à toute allure contre un mur et que le problème n'est pas de ralentir la vitesse du train, mais de changer de train. Voilà. Donc le thème de la radicalité, je pense qu'il est important parce que c'est quelque chose qu'on nous renvoie régulièrement dans la tête. Vous êtes trop radicaux. Ce projet est impossible. Ça correspond pas aux humains, à l'humanité, etc. Et donc moi, je réponds toujours que non, c'est nous qui sommes en réalité des individus très raisonnés et très raisonnables.
Mais je pense aussi que, enfin, si on va sur le même terrain, on peut se dire, on a souvent face à nous l'argument de. Vous êtes irrationnel, déraisonnable. Regardez, notre système, le système capitaliste est un système qui fonctionne, un système qui marche. Et j'ai envie de dire que parce qu'on applique un système, est-ce que celui-ci marche pour autant? Un système qui fonctionnerait bien, qui fonctionnerait normalement, pour moi, ce serait. Enfin, la logique veut que ce soit un système qui, à minima, soit capable d'héberger tous les individus qu'il compose. Ce soit un système qui arrive à minima à nourrir tous les individus qu'il compose. Si on va dans cette logique-là, je peux absolument pas considérer que parce que le système actuel est appliqué en ce moment, qu'il fonctionne. Pour moi, on est dans un système qui fonctionne absolument pas, et de le prendre en comparaison pour dire que des idées libertaires sont pas viables, faut déjà considérer que ce qu'on vit actuellement n'est même pas viable, quoi. De voir que comment dire, pas spécialement plus loin que ça, quoi.
Oui, oui, alors, par rapport justement au film d'hier soir, enfin d'hier après-midi, on voyait des animaux qui se révoltent et qui étaient très radicaux quand il s'agissait de reprendre la ferme à leur maître, se battre contre, se virer le maître de la ferme, et puis qui après se retrouvent à changer, par exemple, tous les animaux sont égaux, et puis on rajoute un petit paragraphe, mais certains sont plus égaux que d'autres, quoi. Donc ils deviennent un peu moins radicaux et reprochent ceux qui ont pris le pouvoir, du coup, qui ont remplacé l'ancien pouvoir, se mettent à reprocher aux autres de devenir trop radicaux, d'être trop radicaux, d'être restés trop radicaux, alors qu'ils sont juste restés sur les mêmes bases qu'au départ. Et je pense que ça, c'est aussi un exemple qu'on a dans la société actuelle, qui est à la base une révolution pour l'égalité, la liberté, et puis qui, une fois que le pouvoir se met en place, déjà qui n'était pas, la partie des révolutionnaires qui a pris le pouvoir, qui n'était pas radical de façade, et puis en tout cas quand il s'agissait de s'associer contre le pouvoir en place, ils s'associaient volontiers avec les radicaux, mais quand les radicaux prenaient un peu trop d'ampleur, devenaient un peu trop menaçants pour leur projet, ils devenaient tout de suite moins radicaux et s'associaient facilement avec l'autre camp. Et on est dans de leur point de vue, en tout cas, ce système marche bien, mais c'est vrai que il est complètement irrationnel et absurde. Et effectivement, on peut être radical d'ailleurs sans être anarchiste. Il y a des gens qui défendent le droit au logement pour tous, inconditionnellement, par exemple. C'est radical, c'est une revendication tout à fait rationnelle, basique, parce que j'ai envie de dire, c'est une société un peu dont on serait fier ou quoi, ce serait un minimum, quoi. Donc on est vraiment dans la radicalité, mais qui est pas.
En fait, c'est juste de la pure logique, quoi. C'est faut voir qu'est-ce qu'on peut bien entendre par radical dans le fait d'être D'être simplement logique, de dresser simplement le constat de ce qui marche et de ce qui fonctionne pas, de dresser le constat que actuellement ça fonctionne pas du tout. Et je pense que je fais souvent la comparaison par rapport à quand tu bricoles un truc, tu peux, si tu veux, tu peux te bricoler une commode, complètement naze, faire vraiment une ruine qui bat la branloque et qui tient pas debout. Quand tu poses un truc, ça calanche complètement. On peut dire oui, mais regarde, je m'en sers tous les jours, j'ai une commode devant moi. Peut la comparer au système, oui, mais est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle est bien, non, est-ce qu'elle marche, la chose que t'as réalisée, la chose que t'as fabriquée, non, si t'es un minimum clairvoyant, tu diras, non, j'ai honnêtement fait une merde, quoi. Et je pense que c'est pareil avec le système, c'est pas parce qu'on a devant nous quelque chose qui existe, comme tu aurais une commode NAS qui pourrait exister, qu'elle fonctionne pour autant, quoi.
Le thème de la le mot employé de radicalité, il a souvent une évidemment une connotation qui est péjorative. Bien sûr, surtout en ce moment où le terme de radicalisation est employé notamment par rapport à l'islamisme, etc. Donc il y a une connotation qui est très négative, bien sûr. La radicalité, elle exprime, enfin de mon point de vue, en tout cas, elle exprime un raisonnement, une logique qui est poussée jusqu'au bout. D'une certaine façon. Et il y a aussi ce fait que, bon, je l'évoque des fois dans l'émission, je dis toujours que par rapport au projet révolutionnaire en général et tout, il y a un saut dans l'inconnu. Et c'est une réalité aussi qui peut faire peur. Et donc, qui fait que beaucoup de personnes, en tout cas, se rattachent à ce qu'elles connaissent. Hein, comme on le dit, vaut mieux un bon tien qu'un tu l'auras. Tu sais, c'est un proverbe. Bien sûr que ça joue contre l'esprit d'innovation, l'esprit de révolte, de colère contre l'idée révolutionnaire, contre le désir révolutionnaire. Bien sûr que ça, c'est un frein. Et pourtant, quand on regarde bien, tous les champs politiques qui sont présents dans les sociétés et qui s'affrontent, tous ont cette particularité-là, ce tronc commun, c'est que tous sont pour l'État. Si on regarde le monde politique à travers le monde, des forces d'extrême droite jusqu'aux forces d'extrême gauche, en passant par toutes les composantes socialistes, social-démocrates, droite parlementaire, tout ce que tu veux, tous ont un point commun, c'est que ce sont de fervents partisans de l'État. Si ce n'est que les marxistes envisagent un dépérissement de l'État, dont on a vu ce que donnait ce dépérissement à travers l'histoire, lorsque l'État n'était pas détruit tout de suite, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, il y a cette croyance en l'État, qui est un tronc commun à l'ensemble de tous les gens qui pensent politique, qui font de la politique, qui ont des projets, des programmes politiques. Il y a ce tronc commun qui est donc l'État, donc l'autorité, donc le pouvoir exercé de façon plus ou moins brutale selon les cas et selon les situations. Mais ce tronc commun, il existe bien. Le seul courant politique qui est en rupture avec l'État, c'est le courant anti-autoritaire, c'est l'anarchisme, et évidemment, cette proposition est perçue comme radicale, et dans des discussions, on nous dit « mais non, mais vous êtes trop radical ». Or, comme tu le disais, l'histoire contemporaine et même l'histoire plus ancienne est là pour nous montrer quelle est la réalité de l'État. Et c'est ça qui est toujours impressionnant. C'est que quand on est taxé, de radicaux, d'utopistes, etc., on pense qu'on est sur une position en réalité qui est très raisonnable, alors que, à l'inverse, ceux qui s'échinent à penser l'État différemment, qui s'échinent à penser l'État mieux redistributeur de justice sociale, de richesse, etc., ont derrière eux un bilan désastreux. Hein, c'est l'histoire, tout simplement, des gauches au pouvoir dans le monde. Hein. Tous les espoirs qu'elles ont suscités. Hier, quand on débattait à Publico, j'évoquais, par exemple, et là, on retombe en plein dans la thématique du dessin animé adapté de Orwell, La ferme des animaux, j'évoquais le cas du Nicaragua. Dans les années 80, le Nicaragua a été a suscité plein d'espoir à gauche, à l'extrême gauche et même chez les libertaires. C'était la révolution sandiniste avec le héros de cette révolution qui était Ortega. Ortega qui est maintenant un infâme dictateur qui fait marcher son peuple à la trique, qui enferme ses opposants politiques, qui muselle le mouvement syndical, le mouvement social. Donc on retourne. Mais malgré toute cette histoire, malgré tous ces enseignements, la proposition anarchiste, effectivement, de rupture totale, radicale avec l'État et le capitalisme, apparaît comme quelque chose d'infondé, quelque chose d'utopique, qui va déclencher à notre encontre de la violence, des sourires amusés, en tout cas, une incompréhension totale. Et pourtant, quand on regarde le fond des choses, c'est ce que vous évoquiez, c'est qu'on est actuellement dans une impasse, et en plus dans une impasse à un moment donné de l'histoire de l'humanité, où on n'avait jamais vu ça avant. L'humanité aujourd'hui s'interroge sur les propres conditions possibles de sa survie, et à ce moment-là de l'histoire, alors que ça devrait ouvrir les portes d'une certaine radicalité en termes d'envisager des changements sociaux, politiques, au contraire, on continue à penser que les propositions anarchistes sont bien souvent ignorées, tout simplement, le plus souvent critiquées, marginalisées, ridiculisées ou combattues carrément. Alors que, justement, cette nouvelle donne, aujourd'hui, devrait interroger vraiment les gens et les amener sur des positions radicales, faire le deuil que continuer à vouloir aménager ce système, c'est cause perdue. Si ce n'est, évidemment, comme je disais tout à l'heure, pour reprendre l'image du train, de contribuer à ralentir un petit peu la vitesse du train. Mais ce qui ne l'empêchera pas de rencontrer un jour le mur.
Avec l'accusation de la radicalité, généralement, il y a aussi ce reproche qu'on a tendance à nous faire d'être intolérants. Je pensais que c'est important de revenir là sur ce terme-là en lui-même, parce que déjà, ça pose problème. J'en entends pas mal parler. Enfin, je veux dire, c'est un mot qui est franchement à la mode. La tolérance, même en matière d'antiracisme, en matière d'antisexisme, choses comme ça. On va pas parler d'égalité, par exemple. On va pas parler de faire complètement abstraction du sexe ou de la couleur de peau. On va parler de tolérance. Moi, je trouve ça extrêmement dérangeant parce que pour moi, tolérer, c'est pas s'en foutre, c'est pas se foutre du sexe ou de la couleur de peau, c'est accepter en grinçant des dents, mais accepter quand même. avec difficulté. Et du coup, sans quoi ça rejoint ce que tu disais à l'instant, c'est que justement, on accuse souvent les anarchistes d'être intolérants justement sur ces mêmes questions, d'être intolérants sur leur position politique. Et je pense que la tolérance est quelque chose dont, une idée même à éviter, dans le sens où si quelque chose te fait profondément grincer les dents, notre position en tant qu'anarchiste, c'est pas de l'écraser, de le foutre sous le tapis, c'est de le crier. Quand quelque chose relève, comme je disais, du sexisme ou du racisme à l'instant, notre position, c'est pas de tolérer, parce que on n'a pas du tout dans l'idée d'accepter en grinçant des dents. C'est juste de s'en foutre, d'accepter ou de lutter pour. Mais à aucun moment, je pense que on peut prêter attention à la tolérance. Je pense vraiment que c'est une idée qui est mauvaise en soi de véhiculer ça. Je pense aussi que la tolérance, c'est un truc qui, je disais que c'est un mot pas mal à la mode en ce moment. Je pense qu'il rejoint, s'il est à la mode, c'est parce qu'il rejoint profondément une logique qui est une logique qui est la logique commerciale ou la logique du monde de l'entreprise. On entend souvent parler dans les idées du monde de l'entreprise, de parler de flexibilité, de parler de tolérance, d'acceptation, de quoi d'autre, ce genre de termes qui relèvent d'accepter d'être souple aussi, qu'on entend beaucoup, en bref, de pas prêter trop attention. Et du coup, je pense que, si ce terme est à contester, c'est pour ce que je viens d'exprimer. Et aussi pour justement ce côté entreprise qu'il a, dans le sens de dire que tu vas tolérer jusqu'à l'intolérable, que tu vas grincer les dents, mais que tu vas mettre sous le tapis et que tu vas essayer de présenter un bon sourire à la place, quoi. C'est à peu près tout. Je pense que j'ai encore pas mal à dire sur la question de la tolérance.
Ouais, voilà. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on va pas. Si on se dit antiraciste, on peut pas tolérer un peu de racisme, par exemple. Ça n'a pas de sens.
Oui, oui, voilà.
D'ailleurs, c'est comme dire trop radical. Ça veut pas dire grand chose, finalement, parce qu'on est radical ou on l'est pas. Ce qui nous reproche d'être trop radical ou intolérant, c'est que ça les dérange, puisque évidemment, si on est radicalement contre l'État, on va pas avoir du mal à s'associer avec des gens qui nous disent oui, nous aussi on est contre l'État, mais pas tout de suite, quoi. Il y a aussi une question il y a aussi le problème de sincérité finalement derrière tout ça, puisque justement, si on se dit, quand on se dit qu'on est contre l'État, contre le pouvoir ou contre le vote, c'est qu'on est vraiment contre ça, on le pense vraiment, et donc on est radicalement. Comme on dit, si on veut loger tout le monde, on le pense vraiment. Et combien de gens nous disent, au départ, ils disent la même chose que nous, et puis ils se montrent justement moins radical, plus tolérant, mais pour accepter ce qui est inacceptable. Et on entend aussi d'ailleurs l'inverse, des gens qui disent, ah, mais c'est inacceptable et puis pourtant des choses qui sont tout à fait acceptées.
Oui, oui, bah justement parce que ces gens-là arrivent à tolérer quoi, bah accepter l'inacceptable juste en grinçant des dents quoi. Et oui, non, bah, en tant qu'anarchie, je pense que c'est même pas concevable comme idée quoi. Non, on accepte ou on n'accepte pas.
Voilà, bah, comme un peu tous ces appels à la modération qui vont faire un peu la même chose. Faudrait rester modéré, alors qu'au contraire, surtout quand on se dit révolutionnaire, c'est tout sauf la modération. Et puis la modération et les modérateurs qui veulent modérer en plus les autres sont encore pires. Sont assez radicales d'ailleurs dans leur modération, dans la façon de modérer les autres.
On voit ça des fois sur les plateaux de télévision, quand il y a un débat télévisé où c'est très rare, arrive par exemple quelqu'un qui participe à un mouvement social qui est là comme invité au milieu de tout un tas de politiques. Pour des bonnes raisons, il va péter les plombs. Et bien souvent, il y a un concert de voix contre lui dans l'esprit. Mais calmez-vous, restez calme, un peu de dignité, etc. Et pourtant, la colère est légitime. Moi, je trouve que être en bonne santé mentale, dans ce monde, dans cette société, c'est hurler de tous ses poumons contre cette société, c'est crier sa rage, c'est crier sa révolte, c'est dénoncer les injustices. Le ton approprié n'est pas celui de la modération, de la courtoisie, de tout cela. Le ton approprié, c'est celui de la révolte, si on est en bonne santé mentale, c'est-à-dire si on voit le monde tel qu'il est, si ce qu'il y a d'humain, d'humanité en nous n'est pas anesthésié. Et je pense que c'est le bon, comportement. Mais en réalité, ce comportement-là, il est décrié. Tu prends, même hors télévision, mais tu prends simplement un débat quelconque, la personne qui va s'exprimer tout d'un coup sur sa condition sociale, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de colère, avec beaucoup de virulence, etc. et tout, va risquer de rencontrer une désapprobation de l'Assemblée. Qu'est-ce que c'est que cette excité ? Et puis on parle pas comme ça, alors que sa colère est légitime, est profondément légitime. De la même façon, dans les manifs aussi, on appelle à quoi dans les manifestations ? On appelle à la modération. Tous ceux qui gèrent ce système, ou qui le co-gèrent, comme nombre de syndicats, appellent à la modération. Ils appellent aux Bastilles, Nations, aux manifestations traditionnelles. Mais quand survient la colère, qu'il y a un affrontement, enfin bref, que de la colère s'exprime, tout de suite on va parler d'éléments radicalisés. Alors que la bonne santé mentale, je dirais, c'est justement d'exprimer de la colère, de vouloir exprimer cette colère, et non pas de manifester simplement entre des ballons syndicaux, des services d'ordre, bien en rang, bien rangés, etc. Je pense que cette société taliste mérite qu'on se mette en colère contre elle et qu'on exprime cette colère. Et comme le disait Natacha un petit peu, tout va, ou toi Nicolas, tout va dans le sens de, effectivement, de la modération. Il faut être modéré. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, Nicolas, c'était dans une émission que j'avais fait, où je parlais à l'époque, bon c'était il y a quand même quelques temps, des émeutes de banlieue. Et je lisais un article d'un journal qui vantait qui vantait des villes et leurs cités en parlant de cités tranquilles. Et je disais à l'époque que ce qu'ils vantaient comme cités tranquilles, c'était tout simplement des cités qui étaient touchées, comme beaucoup d'autres quartiers, par la précarité, la pauvreté, la misère, le chômage, etc. Et que ce qu'on appelait des cités tranquilles, c'était tout simplement des cités où les gens ne se révoltaient pas. où ils étaient soumis, où ils étaient anéantis d'une certaine façon, sans grande capacité de révolte. Et donc, en comparaison, on parlait des émeutes de banlieue avec ces jeunes sauvages, etc. Ce que j'avais dit à l'époque, c'est que on pouvait, en tout cas à l'époque, essayer de comprendre, regarder ce qui se passait, porter un discours politique dessus, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça voulait dire simplement cette colère, cette émeute, cette colère sociale qui s'est exprimée? Ça voulait dire tout simplement on est vivant. Ça voulait dire on est vivant, on n'est pas mort, vous ne nous avez pas encore anéantis, on est toujours debout, on peut gueuler, on peut se manifester d'une façon ou d'une autre. Et ce que j'avais exprimé à l'époque, c'est que je préférais mille fois la vie quand elle s'exprime, et là elle s'exprimait, que la mort lente dans laquelle on veut enfermer des individus, ou en tout cas des catégories de la population. J'exprimais ça à l'époque. Et d'ailleurs, l'opinion était assez surprenante par rapport au sujet. Parce que, quelque part, je pense que ces émeutes avaient titillé un petit peu les gens. Il y avait une condamnation, on va dire, officielle, médiatique, politique, et même, je pense, une grande partie de l'opinion. Mais en même temps, ça avait titillé pas mal de gens sur cet aspect qui est essentiel, c'est-à-dire celui de la vie, de l'expression de la vie, de l'expression de la colère, de l'expression de la révolte. Vous voulez écouter un peu de musique ou reprendre la parole?
Ça me rappelle aussi cette histoire qui avait beaucoup fait de bruit dans les médias sur l'histoire de la chemise arrachée il y a quelques années, avec un ouvrier, enfin c'était Air France qui avait fait... qui avait raconté aux employés qu'ils devaient serrer la ceinture pour garder leur emploi et tout, vu la crise, n'est-ce pas? Et puis, donc, des gens qui avaient été virés, etc. Et suite à ça, Air France annonçait des bénéfices records. Donc, forcément, ça énerve un peu, hein, ça se comprend. Mm-hmm. Et ils étaient allés voir les gens qui s'étaient foutus de leur gueule, et il y en avait un qui s'était fait arracher sa chemise. Les médias étaient dans tous leurs états, les journalistes de télé, qui évidemment sont loin de cette réalité-là, ou des gens de la vie dans les cités, sur qui ils bavent sans y être même, étaient dans tous leurs états et criaient la radicalité, au terrorisme, etc. Et il y avait un de ces ouvriers qui avait été invité, c'est pas souvent déjà, il était là, mais alors il fallait évidemment qu'il reste dans le cadre, et il voulait absolument lui faire dire que ça était allé trop loin, ça pouvait pas, on pouvait pas, on comprenait bien sûr la colère, mais on pouvait pas aller jusque là, arracher une chemise, c'est la violence et tout. Et le mec expliquait que mais lui, il y avait un collègue qui s'était suicidé, l'autre qui était trouvé à la rue, des choses comme ça, quoi. Et, mais alors ça. Les journalistes, je sais pas, ils voyaient pas ou ils voulaient pas. Ça la passait. Il y avait une chose qui revenait. Non, mais dites ça. Non, mais dites, c'est pas tolérable. On peut pas tolérer cette violence. Il fallait absolument qu'ils rentrent dans ce cadre-là et qu'ils remettent. Alors que. Je pense que on en avait parlé aussi de cet épisode-là dans une émission, et il y avait beaucoup de gens qui étaient plutôt dans la même situation, enfin qui comprenaient très bien, quoi.
Qui étaient carrément hilar.
On n'est pas tous journalistes de télé avec leur niveau de vie, donc les gens n'avaient aucun problème, un peu comme les Lascars, qui disaient nous on allait parler des gens dans notre situation, il n'y avait aucun problème, les gens ils comprenaient très bien, et cette histoire de la chemise nous avait au contraire beaucoup réjouis. Et il y avait eu des reprises et des chansons dans tous les sens aussi, ça avait réjoui beaucoup de monde, mais et c'était ça allait pas très très loin. C'est vrai qu'il y a aussi cette tendance à accuser pour la moindre action un petit peu radical maintenant assez vite de terroriste. Hein, c'est un mot aussi du côté du pouvoir qui est très à la mode.
Oui. On va écouter un peu de musique maintenant, ouais. Si vous êtes partant. On va écouter Fred Alpi. Une chanson qui s'intitule Jean-François B, social-démocrate, dont je te parlais tout à l'heure, Natacha. Donc voilà, je te la laisse écouter, et je vous la laisse écouter.
employé de bureau, citoyen modèle, payant des impôts, a été jeune et rebelle autrefois, et même fumé de la marijuana. Oh, oh. Il subit sans broncher la névrose d'un petit chef de pas grand chose, qui le veut docile et travailleur, pas le genre à compter ses heures. Oh, oh. Jean-François B, social-démocrate, il est de gauche, mais de droite, il n'a pas la rage, il n'a pas la haine, il espère seulement de plus grandes cages, de plus longues chaînes, de plus grandes cages, de plus longues chaînes. Épargnant, électeur fidèle, gratte clavier professionnel, il croit l'économie de marché par ce qu'ils l'ont dit à la télé. Oh, oh. Il se voit déjà en retraite, il voit ses collègues faire la quête pour une couronne de fleurs synthétiques et du coup se tiennent dans des gobelets plastiques. Oh, oh. Jean-François B, social-démocrate, il est de gauche, mais de droite, il n'a pas la rage, il n'a pas la haine, il espère seulement de plus grandes cages, de plus longues chaînes, de plus grandes cages, de plus longues chaînes. Touffes de Jean-François font chaque jour plus de dégâts que n'importe quel bruit de botte. Il ferme sa gueule et il vote. Il ne défile jamais dans la rue, préfère rester assis sur le cul devant l'écran qui lui dit quoi faire pour être consommateur exemplaire. Jean-François B, social-démocrate, il est de gauche, mais de droite, il n'a pas la rage, il n'a pas la haine, il espère seulement de plus grandes cages, de plus longues chaînes, de plus grandes cages, de plus longues chaînes, de plus grandes cages, de plus longues chaînes, de plus grandes cages, de plus longues chaînes.
Voilà, Fred Alpi à l'instant sur les ondes de Radio Libertaire, cette chanson Jean-François B, social-démocrate, ben, qui rentre complètement dans le dans la thématique hein, qu'on abordait, hein, notamment quand il dit à un moment donné, alors je le reconstitue pas au mot près, mais quand il dit les pantoufles de Jean-François B sont bien plus graves que le bruit des bottes. Excusez-moi, j'ai retenu, mais pas au mot près, mais enfin, voilà, en tout cas, l'idée est là, et ça nous ramène évidemment à l'idée de modération, effectivement, qui est terrible, parce que quand on regarde concrètement les modérés, par exemple, Nicolas pourra en parler, bien sûr, puisqu'il a vécu pas mal de luttes, on va dire, dans différents domaines. Mais souvent, les modérés sont terribles. Ils sont terribles, et effectivement, ils sont dangereux. Ils sont autoritaires, d'ailleurs, par ailleurs, tout en étant modérés. Mais quand on regarde sur certains terrains de lutte, souvent, en réalité, la radicalité serait le ticket gagnant pour gagner des logements, pour gagner des papiers, pour gagner tout simplement. Et quand il y a un collectif d'individus qui est en lutte, au sein de ce collectif va se manifester souvent diverses tendances radicales, modérées, pas que, mais quand même, c'est quand même un clivage important. Et souvent, on se rend compte que la radicalité, oui, je le disais, serait le ticket gagnant pour la victoire, pour obtenir ce pourquoi on est censé lutter. Or, ce qui l'emporte, souvent, c'est la modération. C'est les modérés qui n'hésitent pas à utiliser de moyens, d'ailleurs, déloyaux pour contrer ceux qu'ils pensent être les radicaux. Et Nicolas pourrait l'illustrer de quelques exemples, mais on s'est trouvé confronté à travers des luttes dans bien des situations où la seule réponse dans le but pragmatique de la victoire était la radicalité, où les modérés l'ont emporté au détriment de la lutte et ont donc acté en fait l'échec de la lutte.
Oui. Bah c'est vrai que on peut on peut manifester tant qu'on reste dans les cadres, dans les clous. On n'obtient pas grand-chose juste en s'en tenant là. Et si ça déborde pas, effectivement, ça va pas bien loin.
Bah après, en même temps, c'est vrai que c'était intéressant ce que tu disais juste avant qu'on passe la musique. Enfin, je voulais en y revenir parce que quand on parle de radicalité, alors là on voyait plutôt la radicalité comme une accusation qu'on nous fait, la radicalité comme notre soi-disant intolérance, comme notre exaltation. Enfin, c'est vrai que pour moi, la révolte a si peu de sens si justement tu trouves pas ça normal de l'exalter quand c'est quelque chose que quand soit quand l'anarchisme pour toi est viscéral, l'exaltation que tu fais des choses qui te révoltent, c'est ça qui te mène à la révolte. Je vais prendre le sujet de l'antimilitarisme, quand tu vois que t'essayes de t'imaginer 5 secondes qu'est-ce que ça peut être que ces monceaux de cadavres faits en quelques poignées de secondes, tu peux ressentir que du dégoût, justement. Tu peux que le prendre en pleine trogne et exalter ça dans le sens de se dire mais quelle horreur, je peux pas ne pas le voir, ou alors comme on peut voir au bistrot, dire ah et oui c'est comme ça, et puis sans que ça aille plus loin. C'est vraiment d'une manière, je pense que une grande proportion de personnes se disant anarchistes justement le deviennent parce que justement c'est insoutenable d'être confronté à ça, d'être confronté, de pas pouvoir accepter ni l'horreur que ça peut te procurer que d'aller au travail, ni de voir des inégalités, ni de voir le résultat que fait une guerre. Je pense que justement, cette révolte, on peut pas l'exprimer de manière modérée, on peut pas l'exprimer dans un calme plat et en toute tranquillité. Évidemment que dans le langage que tu vas utiliser, que dans ta façon de parler, la plupart du temps, bah ce sera pas ce sera pas comme c'est encore très à la mode, justement, quand on voit par exemple des mouvements comme Nuit Debout, où justement il faut parler de manière absolument calme, essayer de même presque pas utiliser la sonorité de ta voix pour faire passer des expressions, mais utiliser des gestes corporels, soi-disant que ce serait moins véhément, que ce serait moins enfin que tu t'en serais moins excité, quoi. Moi, je trouve ça complètement irrationnel quand tu te révoltes, quand tu exaltes quelque chose, tu le choisis pas spécialement, et ta façon de le communiquer va forcément être en lien avec ce qu'elle t'évoque dans ta tête, quoi. Et pour moi, ça rejoint pareil que pour le mot tolérance, dans ce que je disais tout à l'heure, ce discours qu'on peut retrouver dans les mondes de l'entreprise, quoi, dans le sens où comme avec la tolérance, il faut être tolérant, indulgent, souple, flexible et accepter l'inacceptable, avec justement cet autre mot là qui est quelle expression j'utilisais déjà, qui est d'avoir un calme plat dans ton attitude. Ça rejoint aussi cette idée d'accepter l'inacceptable, de rester calme et serein en toutes circonstances, de ne pas élever la voix, de ne pas se mettre à gueuler, ni supprimer toute révolte viscérale, quoi. Et du coup, je pense que même dans les milieux, quand ça se calque au milieu militant, comme là je citais Nuit Debout, mais il y a tout un tas de, enfin une flopée gigantesque de collectifs dans lesquels on retrouve ces manières d'agir, d'aseptiser la discussion, de communiquer par geste corporel, de parler presque en murmurant, d'utiliser des je vois Nicolas dans le studio qui m'a prouvé en battant des mains d'avoir un électrocardiogramme plat, quoi. En fait ça inhibe la révolte, mais pour moi ça vient pas de nulle part. C'est quand tu vois n'importe où ces façons de s'exprimer sont utilisées, quand t'analyses les milieux dans lesquels ils viennent, c'est pas des milieux qui sont plus susceptibles à exalter l'horreur d'une condition. Tu vois les milieux universitaires qui prônent beaucoup ça, qui écrivent des bouquins sur les manières de s'exprimer en assemblée générale. Tu vois Nuit Debout, il y avait aussi pas mal de bobos, quoi. Tu vois justement le milieu de l'entreprise qui est constitué de gens de classe moyenne aisée, de petits patrons, entrepreneurs et de bobos toujours, j'ai jamais vu ce genre d'expression dans des manifs où justement tu côtoyais plus des prolos ou des gens qui sont absolument à milieu d'essayer essayer de pas blesser la personne qui est à côté de toi juste parce que tu parles fort, quoi.
Je pense que c'est... Oui, t'as raison, t'as complètement raison. Il y a tout un, il y a tout un tas d'encouragements qui vont dans, dans cette direction-là. Donc la modération, effectivement, le... et ça se traduit aussi dans les milieux militants. Et il y a un aspect social aussi, évidemment, qui est important. Je vois même, y compris dans notre propre courant, c'est-à-dire le courant anti-autoritaire, libertaire, ce qui se manifeste de notre mouvement, qui vient, par exemple, du milieu universitaire, c'est pas la même chose que l'expression de la rue. Quand les anarchistes sont dans la rue en colère, ça s'exprime d'une certaine façon. L'anarchisme en milieu universitaire, par exemple, devient quelque chose de posé, de calme, de réfléchi. Et quelque part est déconnecté de ce qui précède tout dans l'anarchisme, c'est effectivement le sentiment de résistance à l'injustice sociale, ce sentiment de révolte, bien évidemment. Alors ensuite, je pense aussi, bien sûr, qu'il y a un temps dans l'individu pour que sa révolte s'accompagne aussi du temps de la réflexion, du temps de la lecture, du temps de la confrontation des idées avec d'autres. Bien sûr, ce temps doit exister, mais si il n'est pas précédé du sentiment de révolte, je pense qu'alors l'anarchisme est une idée comme une autre, d'une certaine façon. Alors que fondamentalement, je pense que l'anarchisme s'appuie sur ce sentiment de révolte, et puis aussi, parce qu'on parle toujours en négatif, mais quand on émet quelque chose en négatif, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif, et le sentiment de révolte, qui n'est pas négatif en soi d'ailleurs, appelle aussi un désir d'autre chose, désir de se projeter dans un autre monde. Donc ça, c'était éminemment positif. Mais c'est vrai que je me rappelle par exemple d'un colloque auquel j'avais été, je crois que c'était à la Bourse du Travail à Paris, c'était sur mai 68. Bon, moi, mai 68, j'étais pas sur les barricades, hein, j'étais un tout jeune gamin. Mais se succèdent tout un tas d'universitaires sur le thème de mai 68. À côté de moi, il y avait quelqu'un de plus âgé qui était avec des amis, et ils avaient tous vécu le mai 68. Et à un moment donné, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, c'est merveilleux, ces universitaires ont réussi à faire de mai 68 quelque chose de chiant. Alors... que nous, le souvenir qu'on a de cette époque, c'était au contraire, c'était une explosion pour eux, c'était une explosion de vie, tout simplement. Hein, c'était une colère, une révolte, des désirs, etc. et tout. Et disaient, et là, on les écoute défiler les uns les autres à la tribune, et ils en arrivent en réalité à vider complètement. De sa substance, ce que mai 68 a été pour nous, d'un point de vue humain, affectif, émotionnel, politique, il le vide complètement. Mm-mm. Et je crois que la radicalité, tout simplement, parce qu'on peut considérer que, par exemple, mai 68, il y a eu des moments qui exprimaient une forme de radicalité, ben, je pense que c'est simplement l'expression de la vie. Et plus largement, je pense aussi que ce débat-là, ce qu'il signifie, ce qu'il veut dire, eh bien, c'est un peu l'appel de la vie, le désir de la vie, l'expression du vivant, dans un monde où tout est ramené à des notions en réalité extrêmement mortifères, hein, en réalité. Donc je pense que la révolte, c'est tout simplement l'expression du vivant, et que quand on est vivant ou qu'on essaye de rester vivant, eh bien on est confronté à tout un tas de forces. Des forces qui te disent parle pas trop fort, tais-toi, voyons, sois raisonnable, manifeste, mais sagement, de Bastille à République, etc., etc., jusque dans le monde de l'entreprise et tout simplement dans tous les collectifs, partout où il y a des gens où se manifeste effectivement cette tendance effectivement à vouloir modérer, alors que en réalité on est dans une société, et si on veut la regarder en face, vraiment en face, sans tricher et sans tricher avec soi-même, eh bien ne mériterait que effectivement ne sorte de nos poumons que des gros cris de colère, tout simplement.
Bah ouais, c'est vrai, c'est en fait, de toute façon, je pense que si la manière de s'exprimer est tant que ça différente, quand on parle des universitaires, c'est parce que la manière de venir aux idées libertaires, aux thèses libertaires, est absolument pas du tout la même que la nôtre, quoi. Dans le sens où je pense que quand ça part d'un sentiment de révolte, de l'idée de se dire que ta condition est insoutenable, que tu refuses de vivre ça, que t'as envie de fuir, de t'en extraire, tu as envie de vivre autre chose, aussi bien pour toi que collectivement, de te rendre compte que si c'est insoutenable pour toi, ce sera insoutenable pour tout le monde. De partir d'un sentiment terriblement viscéral pour en venir à des idées, pour en venir à réfléchir et à une pensée qui structure de plus en plus dans ta tête est absolument pas la même quelqu'un qui serait en dehors des réalités sociales, ou qui en serait dedans mais sans trop en pâtir. Bah justement, les universitaires sont pour une énorme majorité de classes bien aisées, quoi. Et comme tu me citais l'exemple d'un copain à toi.
Bah oui, je te racontais. Ouais. Bah, il avait le mérite, je dirais, de l'honnêteté, parce que c'était quelqu'un d'honnête, tout simplement. C'était un copain libertaire qui était donc universitaire. Et bon, voilà, moi j'étais sur un mode, on va dire, beaucoup plus énervé, enragé, etc. Et il me disait qu'il pouvait pas effectivement ressentir les choses comme je les ressentais, parce que il m'a dit, avec, je le répète, la plus grande honnêteté possible, il m'a dit: mais moi je suis un privilégié, et j'en ai conscience d'être un privilégié. Je fais un boulot où je bosse, je crois qu'il me disait 18 heures par mois de cours, je suis très bien payé. Et il m'a dit, en toute sincérité, il m'a dit: je suis anarchiste comme toi, sauf que par rapport aux compagnons, aux camarades anarchistes qui sont dans l'exploitation, exploités au boulot, dans la précarité, le chômage, etc. et tout, il dit: pour moi, la révolution, oui, j'y crois, je la veux, mais elle a un petit côté un petit peu moins urgente quand même. Disons qu'il me disait, c'est les mots qu'il avait utilisés, il me disait: mais moi, la révolution, je peux l'attendre, parce que je peux l'attendre avec un bon salaire, avec une vie professionnelle passionnante, avec un appartement correct, et voilà, je peux l'attendre dans de très bonnes conditions. Donc il n'y a pas le même sentiment, d'urgence. Alors après, je pense pas que c'était quelqu'un qui demandait aux énervés, aux révoltés, de se calmer, de parler avec pondération, etc. et tout. Simplement, il était conscient, tout en étant anarchiste, de sa position sociale.
Ah oui, non, mais je pense bien. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que une fois que, enfin, c'est que dans quand ta manière de venir à la révolte aux thèses libertaires et par pure conviction, par exemple livresque, de rencontrer des libertaires avec qui tu vas tomber d'accord, de lire des bouquins et des brochures et des journaux, ou comme là écouter la radio et de se dire il y a pas de raison que ce soit irréaliste. Oui, je rejoins les thèses parce que je suis d'accord et qu'au final ça rejoint ma longueur d'onde. Rien de mal à ça. Mais ce qui se passe, c'est que cette manière de venir à la révolte et enfin de venir plutôt aux idées libertaires, on ne parle pas forcément de la révolte, est tellement tellement différente que pour moi c'est complètement à côté de la plaque que demander justement à des révoltés de parler avec modération, d'utiliser des petits gestes de main, d'aseptiser leurs idées et leur manière de l'exprimer. Et justement, enfin, je soulignais justement que cette vision de de la manière dont se dérouler des discussions, des réunions publiques, etc. Fondamentalement, elle émane de milieux de gens qui n'ont pas besoin de la révolte, mais qui viennent de manière plus intellectuelle que quelqu'un pour qui ce serait viscéral. Et à partir de ce moment-là, tu l'exprimes pas de la même manière, et la manière de l'exprimer de la personne que t'as en face de toi, qui est pas du tout venue pour les mêmes raisons, te semble disproportionnée, te semble incohérente, parce que justement t'as pas les mêmes raisons de venir à cette révolte.
Ouais, c'est vrai que ça peut être un sujet. La révolte ou les raisons de la révolte sont pour certains un sujet d'étude, quoi. Ça reste abstrait. Mais c'est aussi des gens qui peuvent avoir une certaine position sociale, des certains avantages, et qui n'ont pas forcément envie d'abandonner non plus. Et donc, qui seraient radicaux, mais pas trop pour cette raison-là aussi. On s'est retrouvé aussi dans des situations à l'inverse. On leur a déjà raconté, hein, mais lors d'une expulsion, où on s'est retrouvé avec des gens à qui on n'avait même pas parlé. Ils s'étaient mis simplement aux fenêtres pour voir ce qui se passait. Et loin de nous dire de nous modérer, ils avaient commencé à balancer des trucs sur les flics et ils nous avaient rejoints parce qu'on n'avait pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit. Ils voyaient bien ce qui se passait et ils le vivaient déjà par ailleurs, ce genre de choses. Donc, ou à l'inverse, on peut se retrouver dans des collectifs où d'ailleurs ceux qui nous appellent à être tolérants sont parfois très intolérants envers nous-mêmes, hein. Mais et justement où il vous fallait par exemple on retrouvait des homophobes ou des sexistes dans un collectif parce qu'ils nous réunissaient par ailleurs pour lutter conditions de travail, je ne sais quoi, et on devait censé être accepter ces gens-là. Le problème, c'est que ça marche pas de toute façon. Soit on accepte les homophobes, mais on sera pas avec les homosexuels ou les sexistes, mais alors les femmes voudront pas venir. Donc on va pas réunir tout le monde de cette façon-là, et en étant modéré ou soumis, on pourrait dire, ou obéissant. Et d'ailleurs, les manifestations modérées, comme on disait dans le débat hier à Publico, les manifestations modérées n'ont pas besoin d'être très encadrées par les flics, alors que les manifestations qui débordent le cadre, justement, là, les flics interviennent, et de façon d'ailleurs pas très modérée. Hein.
C'est toute la violence de ce système qui est pas très modérée, ouais. On va dire, hein, plus largement.
Mais qui veut. Ouais, non, mais qui va avoir cet aspect et qu'il faudrait qu'on le garde. Et là aussi, le fait de parler fort, d'avoir une attitude comme ça, ou de s'exprimer quand on n'y est pas autorisé ou pas de la façon prévue, etc. On a aussi ça peut être aussi comment dire psychiatrisé. Et là, il y a la psychiatrie qui aussi remplit ce rôle-là de cadre. Et là, je vous renvoie aux émissions antipsychiatriques et on parle régulièrement, évidemment. Et c'est avec le côté un peu dégueulasse quand même du truc, c'est que c'est pour ton bien, c'est pour te soigner en plus. Donc on va considérer ça comme un caractère même de maladie.
Je repense à la chanson de Gaston Couté, c'est un gars qui a perdu l'esprit, justement, un gars qu'on prend pour un fou, parce qu'il trouve, c'est juste quelqu'un d'assez lucide qui trouve complètement épris de folie le système actuel.
Ouais, et on retrouve les réfractaires au travail, des révoltés qui se retrouvent sous les griffes des psychiatres ou enfermés. On a même vu ça, enfin je me souviens, dans un collectif de soutien aux sans-papiers, un sans-papier qui était venu à La Réunion et qui était très énervé à juste titre contre ces pourriture de toute la gauche qui était là, dans tous les, comme ils sont dans tous les, se mettent dans tous les collectifs de ce genre. Et leur réaction, ça avait été de dire, ils avaient sous-entendu, enfin plus que sous-entendu, dire que s'ils continuaient comme ça, il faudrait penser peut-être à le faire interner. Carrément. Mais voilà, l'entonnoir, comme mentionné tout à l'heure, c'est une émission antipsychiatrie contre la psychiatrie et son monde. Parce que ça fait partie aussi des institutions répressives.
C'est vrai que souvent, l'expression un peu virulente est tout de suite perçue comme quelque chose d'anormal, comme quelque chose à combattre, comme quelque chose à éliminer, etc. Et c'est valable effectivement partout. C'est ce que j'exprimais aussi hier, d'ailleurs, pendant qu'on se réunissait à la librairie Publico autour de ce film, donc adapté de La ferme des animaux de George Orwell. À un moment donné, puisqu'on est en période de manifestation actuellement, j'évoquais le cortège de tête, puisque d'autres participants ont évoqué le cortège de tête. Donc j'évoquais le cortège de tête dont on a beaucoup parlé dans cette émission à de multiples reprises. Qu'est-ce que veut dire tout simplement l'expression du cortège de tête, même en dehors de sa dimension qui est parfois offensive? C'est tout simplement un ras-le-bol de manifester encadré par des services d'ordre, derrière des sonos qui crachent des trucs débilitants, l'envie tout simplement de se retrouver sur une autre base libre, manifester donc librement, si tant est qu'on puisse manifester librement quand on est encadré par des cohortes de centaines de CRS. Mais en tout cas, manifester librement, de pouvoir s'exprimer. Et le fait est que dans la diversité du cortège de tête, comme il n'y a plus les slogans officiels des sonos syndicales, eh bien, il y a plein de gens, y compris des militants syndicalistes d'ailleurs, mais en rupture de ce genre de manif, bien encadrés, contrôlés, etc., qui sont là. Et tout le monde se retrouve sur des mots d'ordre, on va dire, plus radicaux, c'est-à-dire mots d'ordre anticapitaliste, mot d'ordre antifasciste, par exemple. Et je pense que ça signifie cela. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que, bon, bien sûr, les médias vont relater les trois vitrines pétées, et bien sûr, c'est très habituel, mais j'ai jamais vu dans les médias un article qui tentait de comprendre ce que voulait dire ce cortège de tête. Hein, je crois que c'était en 2019, où il y a eu le 1er mai, le cortège de tête était égal ou supérieur à la manifestation syndicale. Donc ça peut... ça peut sans doute vouloir dire quelque chose. Mais ça ne s'est pas passé. La seule chose qui s'exprime, bon, c'est la condamnation d'actes jugés radicaux, point barre, alors que ça veut dire bien autre chose en réalité.
Et là aussi, le cortège des têtes, il a pas fallu juste passer devant les syndicats, il a fallu y rester, et avec face à des services d'ordre qui non plus sont pas très modérés.
Ben, souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, les modérés officiels, on va dire, bon, concernant les syndicats, ceux qui pratiquent la cogestion, par exemple, nombre de partis, effectivement, et tout, sont des modérés, mais les modérés, dans leur pratique, sont souvent, d'ailleurs, des magouilleurs. Sont souvent des autoritaires qui te combattent tout simplement, et on en revient à la question du pouvoir qui était évoquée dans le dessin animé hier, et derrière tout ça il y a bien souvent des questions de pouvoir, des volontés de contrôle sur un collectif, sur un mouvement, et donc en réalité une peur bleue de l'autonomie des individus, que leur parole s'exprime. Je vous avais relaté, je crois, ici, peut-être, ou en privé, je ne me rappelle plus, cette discussion que j'avais eue. Je m'étais rendu à la fête de lutte ouvrière et j'avais discuté avec des militants, mais surtout des militantes de lutte ouvrière. Et c'était assez significatif comme moment parce que, bon, c'était visiblement des femmes qui étaient des prolétaires, quoi, tu vois, qui bossaient dans la santé. Enfin bon, voilà. Et donc, on avait comme une forme de vécu commun. On pouvait exprimer un certain nombre de ressentis face à ce que nous inspirait cette société, enfin l'injustice de cette société-là. Et puis quand on arrivait sur un autre terrain, qu'on évoquait par exemple, on avait évoqué par exemple 95, et donc le mouvement social de novembre-décembre 95, et moi je leur disais, en novembre-décembre 95, ce qui était bien, c'est que à partir d'un moment, on a commencé à avoir dans les assemblées générales les syndicats qui perdaient le contrôle, la base qui reprenait le pouvoir dans la possibilité de parler, de s'exprimer, etc., etc. Et là, alors, de façon unanime, ces militantes me disent, alors que moi je disais que c'était la bonne direction, que plus le mouvement allait devenir autonome des partis et des syndicats, plus il allait gagner en liberté, en spontanéité, en capacité organisationnelle aussi. Alors, et là, scandale. Toutes me disent, mais non, justement, c'est à ce moment précis du mouvement qu'il faut un parti, une avant-garde qui puisse encadrer le mouvement, le diriger, parce que les gens seuls ne sauront pas aller jusqu'au bout, à la victoire, etc. Et là, on voit toute la différence qu'il peut y avoir, et où le moment de rupture se produit, face à ce problème là qui est en réalité, là encore, dans ce que je disais par rapport à l'État tout à l'heure et tout le champ politique de l'extrême droite à l'extrême gauche qui se reconnaît donc dans la nécessité de l'État, avec une nuance effectivement chez les marxistes, il y a le dépérissement de l'État, etc. Mais là, par rapport au problème de l'autonomie et de la liberté des individus, là encore, dans tout le champ politique, tout repose aussi sur cette idée-là. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas adulte, vous ne savez pas, donc il vous faut des gens compétents pour vous guider, vous encadrer, vous diriger et vous emmener là où vous souhaitez aller. Et là encore, les anarchistes, dans leur proposition et dans leur être, tout simplement, je dirais, sont en rupture avec la totalité de la classe politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche.
Bah, en fait... On pourrait dire que l'idée de modération, c'est qu'une idée de norme. Ce qu'on nomme, enfin, ceux qui se prétendent être modérés, ne pas être radical, en fait, c'est simplement par rapport à en se comparant au système actuel. Comme comme référence, comme tu disais, comme il donne le là, quoi. Si le système était autre, et même en pire, hein, on voit que y a toujours cette idée de se comparer au système actuel pour se dire plus ou moins modéré ou plus ou moins radical, d'y émettre quelques nuances. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, peu importe l'endroit où on va te changer de système, tu te comparera toujours à celui-ci pour t'exprimer. Alors je peux donner des gros exemples. Quand tu voyais en France comme en Allemagne, tu avais une proportion énorme de partout en Europe d'antisémites, ça semblait tout de suite un petit peu trop radical d'être radicalement antisémite. Anti-antisémite. Pardon. Et donc tu te basais tu te basais par rapport à cette norme. Évidemment, maintenant c'est plus le cas, mais ça l'est pour autre chose, ça l'est pour plein d'autres choses. Et c'est juste pour donner un exemple que c'est totalement mauvais que de se comparer comme référence au système actuel ou aux idées les plus en vogue pour se forger une idée, parce que cette idée ce sera pas la tienne, ce sera que par rapport au miroir de l'endroit dans lequel tu vis, quoi. Et je pense que justement, si tu veux être libre penseur, si tu veux avoir réellement tes propres opinions, faut absolument arrêter de se comparer à un système actuel dans lequel tu vis ou qui se passe même ailleurs dans le monde, quoi. Quand un modéré se dit modéré, il se dit en réalité modéré que par rapport à la norme. Même quand je pense où tu avais un système dit communiste et un système capitaliste comme ici, les habitants des deux blocs pensaient que le diable en personne était de l'autre côté du mur, quoi. Tu avais l'air radical si tu pensais de l'autre côté, quoi.
Ouais, je pense que oui, t'as raison. Mais juste sur ce que tu disais un tout petit peu auparavant, si tu veux, le fait de rester, tu disais, attaché à cette société-là. Enfin, hein, tu l'exprimais comme ça. De fait, on y est attaché parce que bon, on y vit, hein, bien évidemment, tout simplement. Mais faut savoir penser en termes de rupture. Si on pense pas en termes de rupture, on risque. Dans un désir révolutionnaire, même dans un moment révolutionnaire, de reproduire exactement ce qu'on combattait. Quand je disais qu'il y a une peur de l'inconnu, cette peur de l'inconnu, je pense qu'elle amène bien des gens, y compris dans notre camp, enfin du côté des anarchistes, des libertaires, à vouloir se raccrocher des fois à quelque chose qu'on peut connaître. Tu vois, parce que c'est rassurant de se raccrocher à quelque chose qu'on peut connaître. Et je sais que dans des débats et tout, notamment sur on parle de l'abolition de la police, et en même temps des fois je vois des camarades qui cherchent à se raccrocher à une idée, à quelque chose, alors on n'emploie pas le mot, on parle de milice, on parle d'autre chose, mais qui se raccroche grosso modo à l'idée de police. Pareil pour l'armée, notamment, entre autres. Et la position radicale, c'est de dire effectivement, on éradique tout. Mais c'est pas quelque chose qui repose sur une quelconque posture. Enfin, tu vois, ça repose, enfin, pour ma part aussi, sur une analyse, sur une idée profonde, qui est effectivement que si on est dans une période révolutionnaire et qu'on n'éradique pas tous les germes de l'autorité et du pouvoir, qu'on en laisse vivre, même de façon larvaire, quelques-uns par une soi-disant nécessité de la police, mais pas trop, même sans nommer police, du militarisme, mais pas trop, sans le nommer non plus, de l'État, pas trop non plus, eh bien, je pense que automatiquement et logiquement, et d'ailleurs l'histoire nous l'a prouvé du côté de certains de nos adversaires politiques dans le camp marxiste, que eh bien, ce qui n'a pas été éradiqué, eh bien, repousse naturellement, et que les formes de pouvoir, d'autorité, eh bien, se redéveloppent. Et pourtant, souvent, ben, on se trouve confronté à cela. Mais votre position est beaucoup trop radicale. L'État est nécessaire, mais il en faudra un peu moins et tout, voire il disparaîtra un jour, progressivement, naturellement. La police, bien sûr, la police, non, mais quand même, et on t'annonce toute une série d'arguments pour t'amener à justifier l'existence de ce qui peut revenir de fait à être une police. Donc la modération, c'est ça, d'une certaine façon, la modération, elle est contre-révolutionnaire, tout simplement, et elle tente toujours à légitimer ce qui existe. Et c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que je peux envisager, effectivement, je peux comprendre, en prenant du recul, qu'on puisse être tiraillé, si tu veux, ou en tout cas interrogé par cette peur de l'inconnu, que serait une période révolutionnaire, savoir ce qu'on quitte et appréhender malgré tout ce quoi on peut aller. Voilà, je peux comprendre cette peur-là, mais en même temps, c'est cette peur-là qui paralyse toute possibilité.
Bah, en même temps, ouais, c'est bah non, mais t'as totalement raison. Enfin, j'ai envie encore de comparer là, comme tout à l'heure, à l'idée d'une révolution, à bon, nombre de choses que, enfin, peut-être parce que c'est un sujet que je connais, mais de dimension sociale que tu peux comparer à quand tu fais une pièce en menuiserie. Là, une expérience que j'avais fait récemment, justement, elle était celle-là, et elle en avait exactement les mêmes conclusions. Quand tu vois qu'une pièce est complètement ratée, et que tu y as passé des heures et des mois, t'es tenté de te dire que t'as envie de la bricoler, de la trafiquer, de se dire bon, je vais pas quand même pas la recommencer, je vais quand même pas tout éradiquer, tout foutre en l'air et d'accepter que faut tout remettre à plat. Je vais essayer de bricoler, de bouger un petit peu les choses, de réparer là où il y a eu une erreur. Et bah, la conclusion, c'est que je peux dire j'ai essayé, je compte même plus les fois, ça marche pas à chaque, enfin ça fonctionne pas pour n'importe quelle pièce que ce soit, pour n'importe quelle société que ce soit, vu que c'est la même comparaison, ça fonctionne pas le moins du monde. La seule solution, quand tu rates quelque chose, quand quelque chose ne marche pas, oui, quand quelque chose ne fonctionne pas, bah c'est et même si c'est une dureté pas possible, parce que t'y as cru, c'est de tout remettre à plat et de se dire que tu reprends tout depuis le début. Et c'est exactement la même chose pour la société, quoi.
Alors, en matière de menuiserie, puisqu'on est dans la menuiserie, à la dernière manif, il y avait une pancarte. Mm-hmm. Et je t'avais parlé de cette pancarte parce qu'elle m'avait beaucoup interrogé. Alors, je pense que c'était pas une originalité. Elle doit devenir d'un proverbe ou, tu vois, je pense. Mais cette pancarte disait tout simplement, et je trouve qu'elle résonnait particulièrement bien dans le contexte actuel, elle disait, cette pancarte, le mieux, ennemi mortel du bien. Mmh. Et tu me disais que ça s'appliquait aussi à la menuiserie.
Bah, en fait, c'est le mieux ennemi mortel du bien, c'est à la base un proverbe qu'on applique en menuiserie. Oui, oui.
Et dans quel contexte ?
Dans le contexte où, par exemple, si on est sur une question d'esthétique, t'aimerais conserver tous les aspects un peu esthétiques d'un morceau de bois, par exemple, et d'arriver à te dire que si t'essayes de si t'essayes de faire au mieux, de faire au bien, ou de on peut inverser à peu près les deux, quoi. t'auras du mal à, y a un moment où il faudra faire un choix entre conserver tous les aspects que tu aurais voulu dans ton idée, dans ton imaginaire, et la réalisation de ta pièce, qui sera forcément un peu différente, mais que si tu veux la faire justement au mieux, va falloir se rendre compte que certaines choses tu vas être obligé de les faire, certaines choses vont être possibles, d'autres non, et de pouvoir arranger la chose au gré de la manière dont elle se présente, quoi.
Alors, appliqué au mouvement social, on va dire, moi je l'avais ressenti de la façon suivante, cette citation ou ce proverbe, le mieux ennemi mortel du bien, parce que tout simplement, ça s'applique concrètement à tout ce qu'on dit. Si on considère qu'on aspire à une société de bien-être, de justice, de liberté, et que ça c'est l'objectif, c'est-à-dire le bien, le mieux, c'est tout ce qui consiste à aménager cette société, et tout en voulant aménager cette société là, eh bien on la rend crédible, on la rend en tout cas indépassable. Hein. Et c'est en ce sens que cette pancarte, ce slogan m'avait interrogé, parce que je trouvais que c'était assez fort, quoi. Je trouvais que c'est simple, ces quelques mots, le mieux ennemi mortel du bien, poser une vraie question.
En fait, je pense qu'elle regroupe, je l'ai peut-être un petit peu mal exprimé à l'instant, mais je pense que elle recoupe toujours la même manière dont elle s'exprime, de la manière dont je faisais une allusion à la menuiserie, dans le sens où tu es toujours sur l'idée de faire des concessions ou non. De te dire le bien, quand j'ai travaillé sur une pièce, que je me suis fait chier et que je me rends compte qu'elle marche pas, ou que je préférais avoir tel motif ou non, ce serait de pouvoir l'arranger. Le mieux, c'est de pouvoir se rendre compte que faut tout remettre à plat, et que on peut pas bricoler, quoi. Voilà.
Ça sera le mot de la fin. À moins que Nicolas, tu veuilles ajouter une petite conclusion.
Quand la base est mauvaise, effectivement, faut reprendre les choses à la base. Hein.
Ça va continuer sur Radio Libertaire, vos émissions habituelles du lundi, comme je le dis chaque semaine. Vous nous retrouvez sur notre site du groupe Libertaire d'Ivry, l'émission lundi matin, anarchiste.info. Ah, il semblerait, à l'intention des auditeurs qui nous écoutent sur Internet, Nicolas, qu'aujourd'hui c'est la condition de réception n'était pas au top.
Apparemment, oui. Beaucoup de grésillement ou de bruit, je ne sais pas trop à quel point. C'est vrai que ça s'est passé aussi la semaine dernière. Avec le streaming, ça marche bien pour la FM. Et puis la semaine dernière, il y avait des problèmes aussi avec le podcast. On essaiera de mettre des. Si c'est le cas, on essaiera de remettre un enregistrement audible correctement sur le. Anarchiste.
Voilà, donc sur anarchiste.info, vous pouvez retrouver donc toutes les émissions de lundi matin. On vous souhaite une bonne semaine. de bonnes manifs pour ceux qui vont marcher. Voilà, au revoir, on se quitte avec les coureurs de rempart.
Tout est dégueu dans cette fichue gare, des corps encore plus salis par ces figues. Pépouze dans ce sombre couloir, il contrôle ta base des fugitifs. Je bouillonne, et je rame toute la clique. Diamo tutti antifascisti, diamo tutti antifascisti. Dans cette foutue boulangerie, au senteur de parasites de vieux aigris, l'ancêtre devant moi tape la causerie. Du genre on ne se sent plus chez nous ici. Alors je bouillonne et je rame toute la clique. Siamo tutti antifascisti, siamo tutti antifascisti. Dans ce salon de coiffure, au calme un shampoing, une coupe des bigoudis. Soudain un pelo déboule d'un poids sûr. Merce Narvaro, ta pince à du nazi. Mais j'bouillonne, et j'rame toute la clique. Siamo tutti antifascisti, siamo tutti antifascisti. Yeah.